Tout ça, c'est des histoires avec Tiphaine Levaillant.
C'était au temps où les animaux parlaient, le temps où les fleurs chantaient, le temps où les pierres dansaient. C'était le temps des histoires. En ce temps-là, il y avait un roi qui avait deux filles. Ce jour-là, le roi appelle ses deux filles près de lui. Il leur dit « Écoutez, j'ai décidé d'arrêter de gouverner, je suis trop vieux maintenant. L'une de vous deux va me remplacer. Et celle qui me remplacera, ce sera celle qui trouvera la rose pimprenelle dorée. Allez, mes filles. » Les deux sœurs sont parties, toutes les deux ensemble, chacune avec un petit panier. Les roses pimprenelles, elles savaient très bien ce que c'était. C'était un buisson sauvage de roses blanches qui sentait très très bon. Elles en avaient déjà vu. Par contre, des roses pimprenelles dorées, aucune des deux n'en avait jamais vu. Par contre, elles savaient où leur père avait trouvé la sienne il y a déjà quelque temps de cela. Toutes les deux, elles ont pris le petit raccourci, le chemin qui longeait le ravin. Elles l'ont passé, elles sont arrivées dans la grande plaine. Et puis au pied de la colline, la sœur aînée a couru pour grimper tout en haut. Elle voulait arriver la première. La deuxième a pris son temps. Elle a regardé les fleurs, écouté les oiseaux. Elle est arrivée à son tour tout en haut. Et tout en haut, il y avait la grande pierre levée. C'était là, au pied de la pierre, que leur père avait trouvé sa rose pimprenelle dorée. Mais là, aucune rose pimprenelle, ni dorée, ni blanche, que de l'herbe desséchée. La sœur aînée piétinait. Les deux sœurs ont cherché, il n'y avait pas grand-chose à chercher, il n'y avait que de l'herbe. Alors toutes les deux, elles ont redescendu la colline. La sœur aînée marchait devant. La cadette prenait son temps. Les oiseaux, les fleurs, les papillons. Et quand elle a traversé la prairie, elle a vu au loin une tache blanche. Elle s'est approchée. C'était un buisson de roses pimprenelles blanches, lumineuses. Elle sentait bon. La jeune fille s'est approchée encore plus près. Et là, au milieu des roses blanches, elle a vu une rose dorée. Elle a écarté en faisant attention. Elle a écarté les fleurs blanches. Elles avaient toutes des tiges très, très épineuses. Et la rose dorée avait une tige toute lisse. La jeune fille n'a eu aucun mal à la casser. Elle l'a prise, elle l'a sentie. Qu'est-ce qu'elle sentait bon, qu'est-ce qu'elle était belle. La cadette a posé la rose pimprenelle dorée dans le panier. Et puis elle a couru vers sa sœur. « Regarde, regarde, j'ai trouvé la rose pimprenelle dorée !» La sœur aînée s'est arrêtée. Elle a regardé la rose, elle n'a rien dit. Elle s'est engagée sur le sentier qui longeait le ravin. Elle marchait vite. Au milieu du sentier, elle s'est arrêtée. Elle a fait trois pas et elle s'est roulée par terre. Elle se tenait la main et elle criait « J'ai mal, j'ai mal. J'ai dû me casser la jambe. » La sœur cadette a posé son panier. Et elle a couru vers sa sœur aînée et lui a dit « Attends, je vais te soigner, je vais te faire un bandage. Ça va ?» La cadette s'est approchée de la sœur aînée et elle s'est baissée. Et juste à ce moment-là, la sœur aînée s'est redressée d'un coup sec. Elle a poussé sa sœur et la sœur a basculé dans le ravin. Juste à côté poussait un jeune érable. La cadette a attrapé une branche d'érable pour se retenir, mais l'érable était trop frêle. La branche s'est cassée. Et la jeune fille a roulé tout au fond du ravin, entraînant avec elle un éboulis de pierres, de terre, qui l'a entièrement recouverte. La sœur aînée s'est redressée. Elle n'avait plus du tout mal à la jambe. Elle a pris la rose pimprenelle dorée, l'a posée dans son panier à elle. Elle a déchiqueté le panier de la sœur cadette. Elle l'a dispersé, éparpillé aux quatre vents. Et la sœur aînée est rentrée au château. Elle a été trouver son père, le roi. Elle lui a dit « Père, regarde, c'est moi qui ai trouvé la rose pimprenelle dorée. »« Ah, et ta sœur, elle est où ?»« Ma sœur, Elle n'était pas très contente de ne pas avoir trouvé la rose, alors elle est restée en arrière, elle boude. Elle va pas tarder à venir. Le père, le roi, a attendu, mais la cadette n'est pas revenue, alors il a envoyé des soldats. Ils ont quadrillé les alentours, ils ont cherché, ils sont même descendus au fond du ravin. Ils n'ont pas trouvé la fille cadette. Le deuil a été déclaré 40 jours. Et au bout des 40 jours, la fille aînée est montée sur le trône, elle est devenue reine. Le roi, lui, il s'est installé dans une partie du château. Le temps a passé. Un jour, le berger du château a décidé d'emmener tout son troupeau de moutons, de brebis, dans la grande prairie de l'autre côté de la forêt. Il a conduit le troupeau et il avait une flûte de bois de poirier qu'il avait fabriquée lui-même, un gros morceau de bois qu'on lui avait donné, vieux de 25 ans, bien sec, et il avait fabriqué sa flûte, et sa flûte avait une mélodie tellement belle, le garçon jouait tout le temps de la flûte. Il a conduit son troupeau tout en jouant de la flûte, il est arrivé dans la grande prairie. Les brebis, les moutons se sont éparpillés, et lui, il a continué de jouer. Sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé sur le petit sentier qui longeait le ravin. Il marchait, il continuait de jouer de la flûte. Et tout d'un coup, il a perdu l'équilibre, il est tombé, pas dans le ravin, mais juste sur le sentier, il s'est rétabli comme il pouvait. Et sa flûte, elle est tombée. Le garçon s'est redressé, s'est penché par-dessus le ravin. « Ma flûte de bois de poirier, elle est où ?» Il ne voyait rien. Par contre, il a vu un petit sentier qui descendait tout au fond. Il l'a pris. C'était vraiment dangereux. Il est descendu avec beaucoup de précautions. Il est arrivé au fond. Il a cherché sa flûte, dans les buissons, dans les ronces. Il a fini par la trouver sur un monticule de pierre et de terre. Elle était cassée, nette, en deux, irréparable. Ma belle flûte de bois de poirier. Sur le monticule de pierre, juste à côté de la flûte, un jeune érable avait poussé. Le berger n'avait jamais fabriqué de flûte avec du bois d'érable, mais cet arbre-là était bien droit, le diamètre suffisant. Il n'a pas hésité très longtemps. Le berger a coupé et il a pris le morceau de bois dont il avait besoin. Et il est remonté surveiller les brebis. Ça lui a pris plusieurs jours. Il a écorcé son morceau de bois. Il a sculpté le bec. Il a vidé le cœur. Et enfin, il a percé les trous. Il a porté la flûte à ses lèvres pour voir si le son allait être joli, mélodieux. Et il a entendu « Souffle, souffle, berger, souffle de ton souffle, ce n'est pas toi qui m'as poussé au fond du ravin. J'avais trouvé la rose pimprenelle, j'avais gagné le royaume. Souffle, souffle, berger, souffle de ton souffle. » Le berger a posé la flûte dans son sac et aussitôt il est rentré au château. Il est allé trouver le vieux roi dans l'aile ouest du château qu'il habitait. Il lui a raconté, il lui a montré la flûte. Le roi a pris la flûte. Il ne savait pas jouer de la flûte, mais il a quand même posé la flûte sur ses lèvres. Et il a entendu « Souffle, souffle, mon père, souffle de ton souffle. Ce n'est pas toi qui m'as poussé au fond du ravin. J'avais trouvé la rose pimprenelle, j'avais gagné le royaume. Souffle, souffle, mon père, souffle de ton souffle. » Le roi a pris le berger par les épaules. Il l'a conduit dans les couloirs du château et tous les deux, ils sont arrivés dans la grande salle d'audience, là où était assise la reine. Le vieux roi s'est approché de sa fille Il lui a tendu la flûte, il lui a dit « Essaye de jouer ». Elle n'avait pas tellement envie, mais elle n'a pas osé refuser à son père. Elle a posé la flûte sur ses lèvres et elle a entendu « Souffle, souffle, ma sœur, souffle de ton souffle, c'est toi qui m'as poussée au fond du ravin. J'avais trouvé la rose pimprenelle, tu voulais gagner le royaume. Souffle, souffle, ma sœur, c'est toi qui m'as tuée. » La reine s'est redressée. Et dans un élan de rage, elle a jeté la flûte aux pieds du berger. La flûte s'est brisée en 1000 morceaux. Un nuage de poussière blanche a envahi toute la salle. On ne voyait plus rien. Et puis tout doucement, la poussière s'est reposée sur le sol. À côté du berger, il y avait une jeune fille, la cadette. Elle était bien vivante, du rose aux joues, les yeux pétillants, une belle robe blanche. Et dans la main droite, elle tenait une flûte de bois de poirier, intacte, entière. Elle l'a tendue au berger. Elle lui a dit « Je crois que cette flûte t'appartient. Je te remercie, tu m'as sauvée. » La reine a été jetée au cachot. Et quelque temps plus tard, la sœur cadette est montée sur le trône, elle est devenue reine. Quelque temps plus tard encore, elle a épousé le berger. Et moi je le sais parce que j'étais au mariage. J'étais chargée de surveiller la sauce au beurre et à l'échalote. Mais je ne suis pas très bonne cuisinière et j'ai laissé brûler la sauce. Quand le cuisinier a vu ça, il m'a donné un coup de pied aux fesses qui m'a fait faire le tour de la terre. Et je suis arrivée là pour vous raconter cette histoire.
When I was a fair maid, about age 16, I wanted for to go and serve my country and my queen. I enlisted in the army, a drummer boy to be, and they learned me to play upon the rum-a-dum-a-dee with my big. If you'd have only seen, you'd sworn from your very heart, a young man I'd have been. My waist being small and slender, my fingers thin and small, I could rattle up the dromedary, the best among them all. When I was in the guardroom, where oft times I had been, I never was afraid for to lie down with any man. When taking off my trousers, it often made me smile, for to think I was a soldier and a maiden all the while, with my big hat and feather. If you'd have only seen, you'd sworn from your
sabot, cuillère à peau, souliers de Dieppe, marche avec. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait du chemin. Cric, crac, j'ai une histoire dans mon sac. C'est l'histoire d'Annette. Annette est fermière, une belle ferme avec plein d'animaux. Et parmi tous les animaux, il y a une petite poulette. Cette année-là, la poulette a pondu 7 œufs. Elle les a couvés. Et au bout de 21 jours, il y en a 6 qui ont éclos, des petits poussins tout jaunes. La poulette a pris les 6 poussins, elle les a emmenés au champ pour picorer, chercher des vers, et elle a laissé là le 7e œuf. La fermière Annette a trouvé le 7e œuf. « Oh ben dis donc toi, si tu restes là, tu vas mourir. » Annette a pris l'œuf, elle l'a mis dans une petite boîte avec de la paille près de la cheminée. Et l'œuf est resté là au chaud 3 jours. Il s'est fendillé et un poussin en est sorti. Un petit poussin tout gris. Qu'est-ce qu'il était beau! Je ne vous ai pas encore dit, mais dans la ferme, Avec Annette vivaient aussi le fermier Elias. Et le fermier Elias et la fermière Annette n'avaient pas d'enfants et tous les deux, ils auraient vraiment aimé avoir un enfant. Alors quand ils ont vu le petit poussin tout gris, tellement beau, ils ont décidé de l'adopter et de l'élever comme si c'était leur fils. Ils l'ont appelé Poussin. La fermière Annette a donné une belle assiette remplie de grains à picorer au poussin. Et elle est partie s'occuper des autres animaux. Un petit peu plus tard, elle est revenue dans la cuisine pour récupérer sa belle assiette. Bon, elle est où mon assiette ? Bon, ça alors, je la vois pas. Et dis donc, poussin, t'aurais pas vu mon assiette ? Mais dis donc, poussin, qu'est-ce que ton ventre est gros ? Évidemment que mon ventre est gros. J'ai mangé les grains et aussi l'assiette. Et j'ai encore faim. Le poussin ouvre le bec. Il avale la fermière Annette. Il sort de la cuisine. Il se retrouve dans la cour de la ferme. Là, il y a le fermier Elias avec une biquette. Oh, bah dis donc, poussin, qu'est-ce que ton ventre est gros ? Évidemment que mon ventre est gros. J'ai mangé les grains et aussi l'assiette. La fermière Annette, et j'ai encore faim. Le poussin ouvre le bec, il avale le fermier Elias et la biquette. Et il sort de la cour de la ferme. Le poussin se retrouve sur le chemin, il marche. Un peu plus loin, il croise un marchand avec un cheval et une charrette. Enfin, il ne le croise pas, parce que le poussin est tellement gros que le marchand ne peut pas passer. Bon, dis donc, poussin, qu'est-ce que ton ventre est gros ? Évidemment que mon ventre est gros. J'ai mangé les grains et aussi l'assiette. La fermière Annette, le fermier Elias et sa biquette, et j'ai encore faim. Le poussin ouvre le bec et il avale le marchand, le cheval et la charrette. Et il continue son chemin. Il est tellement gros qu'il touche les herbes de chaque côté du chemin. Beaucoup plus loin, il rencontre 7 jolies fillettes. Des fillettes qui n'ont jamais vu de poussin aussi gros. Ben dis donc, poussin, qu'est-ce que ton ventre est gros ? Les 7 fillettes reculent d'un pas. Évidemment que mon ventre est gros. J'ai mangé les grains et aussi l'assiette. La fermière Annette, le fermier Elias et la biquette, le marchand, le cheval et la charrette, et j'ai encore faim. Le poussin ouvre le bec, il avale les 7 jolies fillettes et il reprend son chemin. Il est tellement gros qu'il touche les arbres de chaque côté du chemin. Il marche, ou plutôt il roule. Beaucoup, beaucoup plus loin, il rencontre un tout petit chat noir. Un petit chat noir qui adore les poussins, qu'ils soient jaunes ou qu'ils soient gris. Et un poussin gros comme ça, bah dis donc, poussin, qu'est-ce que ton ventre est gros ? Évidemment que mon ventre est gros. J'ai mangé tous les grains et aussi l'assiette. La fermière Annette, le fermier Elias et la biquette, le marchand, le cheval et la charrette. 7 jolies fillettes et j'ai encore faim. Le poussin ouvre le bec, il avale le petit chat noir. Et tout d'un coup, le poussin se sent fatigué. Il s'allonge sur le bord du chemin pour se reposer. Enfin, sur le bord du chemin, c'est une façon de parler, il est tellement gros qu'il déborde largement sur le chemin. À l'intérieur du ventre, le petit chat noir trouve qu'il fait noir. Bon, d'accord, les chats voient dans le noir, mais quand même, c'est un peu mouillé là-dedans, et puis il y a beaucoup trop de monde. Cling ! Le petit chat noir sort une griffe, et il fait un trou dans le ventre du poussin, un petit trou qui grandit, qui devient un très grand trou. le petit chat noir sort du ventre du poussin, suivi des 7 jolies fillettes, du marchand de son cheval et de sa charrette, du fermier Elias et de sa biquette, de la fermière Annette qui reprend la belle assiette. Et le petit chat noir court derrière Annette. Annette, miaou. Le poussin là, il est beau, hein? Il est gras. Moi je sais, c'est ton fils, mais tu crois que je pourrais... tu crois que je pourrais... Qu'est-ce que tu veux me dire, le chat? Tu veux aller le manger, c'est ça? Bah, te gêne pas. Moi, je ne veux plus jamais entendre parler de cet ingrat. Le petit chat noir est retourné sur le bord du chemin. Il a fait un festin. Et aujourd'hui encore, quand il pense au festin qu'il a fait ce jour-là, il se lèche les babines, il se lisse les moustaches et il se met à ronronner. Cric, crac, je remets le compte dans le sac. Il avait un homme très riche. Il avait fait fortune en naviguant sur la Loire. Il avait des bateaux qu'il chargeait, qu'il déchargeait. Ce jour-là, il était au bord de la Loire en train de surveiller un chargement. Dans la poche, une bourse de cuir bleu remplie avec 500 pièces d'or. C'est lourd, 500 pièces d'or. Et pourtant, l'homme est tellement affairé qu'il ne se rend pas compte. Et le soir, quand il rentre chez lui, sa poche est vide. Alors vite, il retourne sur les bords de la Loire, il essaye de se rappeler le chemin qu'il a parcouru. Il ne retrouve pas sa bourse de cuir bleu. Alors il proclame qu'il donnera 100 pièces d'or à celui ou à celle qui la retrouvera. Les gens cherchent, ils sont nombreux. 100 pièces d'or, c'est pas rien. Un jour se passe, 2 jours, 3 jours, personne ne trouve la bourse. Ce jour-là, une lavandière s'en va au bord de la Loire pour laver son linge. Elle frotte, elle le bat, et puis elle prend tout son linge tout propre pour aller le mettre à sécher. Elle voit pas très bien où elle marche. Elle trébuche. Une racine. Elle se retrouve dans la boue et son linge noir. Elle se redresse péniblement. Et juste là, dans l'herbe, derrière un roseau, elle voit quelque chose de bleu. Elle s'approche, une bourse de cuir bleu. Elle ne regarde même pas ce qu'il y a dedans. Elle s'en va directement voir l'homme riche. Lui, il ouvre la porte, il voit la femme couverte de boue. Ah, c'est ma bourse. Merci. Attendez, je vais voir si c'est bien celle-là. L'homme riche rentre chez lui, il compte les 500 pièces d'or, tout y est. 100 pièces d'or, c'est ça qu'il faut qu'il donne à la lavandière. L'homme riche compte 100 pièces d'or et il les cache sous son matelas. Il retourne voir la femme, il lui dit « Voilà, cette bourse contenait 500 pièces d'or, moi je n'en compte plus que 400 ». Ça veut dire que vous avez pris votre récompense. Donc, nous sommes quittes. Mais la lavandière n'est pas d'accord. Elle discute. Elles discutent tant et si bien que tous les deux se rendent chez le juge. Le juge les écoute, l'un et puis l'une. Et puis au bout d'un moment, il se tourne vers l'homme riche et il dit « Je sais que tu donnes du travail à toute la région, tu es réputé, je ne peux pas remettre ta parole en cause, donc je pense que tu dis la vérité. » Le juge se tourne ensuite vers la lavandière. Il dit « Madame, à vous voir, je pense que vous auriez pu prendre la bourse de cuir bleu et partir avec elle, rentrer chez vous et vous auriez été riche, mais vous ne l'avez pas fait. Donc je pense que vous êtes honnête. Et donc, je crois ce que vous dites. Et je crois que vous dites la vérité. » J'en conclus que la bourse de cuir bleu perdue contenait 500 pièces d'or. Celle-ci ne contient que 400 pièces d'or. Ça veut dire que ce n'est pas cette bourse-là qui a été perdue. Donc, je vais la garder ici au tribunal aux objets trouvés. Elle va rester ici un mois et si personne ne vient la réclamer pendant un mois, dans un mois, cette bourse appartiendra à celle qui l'a trouvée. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La lavandière est devenue riche et l'homme riche, lui, il a soulevé son matelas pour récupérer les 100 pièces qui lui restaient. Cric! Crac, le conte s'arrête là.
1, 2, 3, 1, 2, 3, porlachter en zich. Weißt du wie er soll? Bei mir in Wald drehen sich also. Wenn du fährst vorbei, in der Bahn vorbei.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre La Rose Pimprenelle, un conte qu'on trouve en France. Poussin à faim, librement inspiré d'un conte tchèque. Et L'homme riche et la bourse de 500 pièces d'or, qu'on peut retrouver entre autres au Liban.